Chapitre 54.
Nectaire aperçoit la Mytho droit devant lui. Même recouverte de neige, il reconnaît la forme caractéristique de la carrosserie. Personne d'autre que Maddy Libéry ne possède une telle voiture par ici. Il avance encore, ou se laisse glisser plutôt. Depuis combien de temps Maddy est-elle arrivée? Combien d'avance a-t-elle sur lui? Il ne freine pas en s'approchant du lac. Il roule déjà assez lentement et se contente de laisser sa Renault 5 s'échouer contre le pare-choc arrière de la voiture devant lui. La Mytho encaisse la collision. Lui aussi. Il souffle. Il est enfin arrêté. Il devrait se sentir libéré, mais ses mains crispées ne parviennent pas à lâcher le volant. Ses yeux continuent de voir clignoter des milliers de taches blanches et noires, comme s'il était resté des heures devant un écran sans image. Il a failli déraper 20 fois dans le fossé, se perdre, caler, rester planté dans les rares montées, ne plus rien contrôler dans les interminables descentes. Il a failli renoncer autant de fois, mais il y est parvenu. Il prend une longue respiration. Ses mains sur le volant sont aussi raides que des crochets de Playmobil grippés. Qu'est-ce qui lui a pris de jouer ainsi le héros? Est-ce pour les beaux yeux fatigués de Savine? Parce que quelques gouttes de sang de flic coulent encore dans ses veines? Ou seulement parce qu'il n'a pas réfléchi? Qu'il a suivi son instinct? Qu'il n'aime pas se faire balader? Qu'il avait simplement envie de connaître la vérité? Une vérité très cher payée. 2 heures de conduite à moins de 10 km/h. Un vélo serait allé plus vite que lui. À trembler à chaque croisement, à maudire son audace, j'y vais. À se demander si c'est bien lui qui conduit, si c'est bien Nectaire Paturin qui tient le volant de la seule voiture assez inconsciente pour rouler sous cet ouragan. À osciller en permanence entre concentration de tous les instants et pensées qui divaguent, tellement la R5 progresse lentement. À s'imaginer bien au chaud préparant son thé, regardant la neige tomber, triant ses timbres d'hier, puisqu'aucun facteur aujourd'hui ne va passer, à parler tout seul dans sa cage de fer derrière les essuie-glaces affolés. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il n'a pas croisé un seul 4x4, pas un seul engin de chantier, pas un seul de ces montagnards suréquipés et aguerris. Dehors, il n'y a que sa vieille Renault 5 et lui. Aster pourra raconter ça à des générations de marmots. Son frère est un héros. Frappé par la foudre, il est parti seul et sorti vainqueur de la pire tempête qu'on ait connue depuis une décennie. Le monde se divise en deux, les fous et les gens normaux. Est-ce que tout le monde franchit la ligne rouge de la folie au moins une fois dans sa vie? Ses mains se sont enfin détachées du volant. Apparemment, il n'y a personne dans la Mytho garée devant. Mais la couche de neige empêche de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur. Il essuie la buée d'un revers de main. Un instant, il espère que l'Espinasse et sa brigade sont déjà sur place. Mais non, il ne repère aucune trace d'autre véhicule. Il est seul, au bord du lac. Et quelque part, tout près, se cache Maddy Libéry. Nectaire, avant de sortir affronter la tempête de neige, prend le temps de se pencher en avant, vers la boîte à gants, et d'en sortir le SIG Pro flambant neuf, rangé dans son étui de cuir. En 15 ans de service à la police judiciaire, il ne s'en est jamais servi. C'est l'un des seuls souvenirs qu'il a gardé de cette période de sa vie. Ce pistolet conservé sans permis, avec un kit à empreintes digitales et sa plaque officielle en métal. Une prémonition? Avait-il deviné qu'il lui faudrait attendre d'être secrétaire de mairie pour le sortir de son étui? Il pousse la portière. La neige accumulée sur la Renault 5 tombe d'un coup, comme si le toit se détachait. Il laisse le nuage blanc se disperser avant de planter ses 2 solides chaussures de randonnée dans la poudreuse accumulée entre les roues. Les crampons accrochent aussitôt. 2 authentiques rossignols, cadeau d'anniversaire d'Aster il y a 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il ne les avait pas davantage sortis de leur boîte que le SIG Pro qu'il glisse dans sa poche. capuche sur la tête. Il avance sur l'embarcadère gelé, avec l'assurance d'un rapace aux griffes acérées. Ses yeux, après son odyssée, se sont habitués à distinguer le moindre détail entre les flocons. Un décodeur sans doute bricolé par son cerveau, comme pour capter une chaîne cryptée. Il tourne la tête à 180 degrés, d'une rive à l'autre, mais ne voit rien, aucune vie. Pas même un corbeau ou n'importe quel autre oiseau, rien que le lac vide cerné par des milliers d'arbres fantômes. Elle est là pourtant. Il le sait. Il ressent des picotements de trappeurs du Grand Nord traquant le dernier ours polaire. Qu'est-ce qui t'arrive, Nectaire ? Il touche la crosse chaude de son SIC Pro pour se rassurer, tout en fixant avec plus de concentration encore la surface du lac. Un village englouti s'y cacherait. C'est la légende qu'Aster aime raconter, la maquette que Tom a construite en secret. Un premier détail l'intrigue. Une infime ride, une vague à peine visible à la surface du lac, mais dont la régularité ne laisse aucun doute. Elle n'est pas poussée par le vent. C'est un cercle parfait, qui s'élargit petit à petit avant de se briser sur la berge, et qu'un autre tout aussi parfait remplace. Des ronds dans l'eau. Pas un de ces ronds provoqués par un caillou jeté de la rive ou multiplié en ricochet, non. Des ronds lents et réguliers, de ceux qui naissent au large. D'un simple impact à la surface, précis et répété. De ceux qui naissent des soubresauts d'un bateau.
Impossible ? Essaie de se convaincre Nectair. Qui pourrait naviguer sur le lac par ce temps d'apocalypse ?
Il lâche un juron qui se perd dans le paysage d'amidon, plante à nouveau ses crampons et retourne en trois pas vers la Renault 5. Il ouvre une seconde fois la boîte à gants et en tire une paire de jumelles. Des National Geographic. Le modèle Caster vend aux touristes. Il se félicite intérieurement d'être aussi organisé. Même si sa Renault est rouillée, cabossée par les années, tout y est à sa place, rangé, protégé. Retour au lac avec ses serres d'épervier aux pieds. Le cercle de cuivre des jumelles écrase ses yeux bouffis. Il règle le grossissement en pestant, essuie l'optique méticuleusement, toutes les 10 secondes, incapable de faire la différence entre sa vue qui se brouille et la neige fondue qui détrempe le verre. Il scrute, mètre par mètre, la surface plane et sombre. Il s'attend presque à voir surgir le cou du monstre du Loch Ness, commence à désespérer quand il repère une nouvelle vague circulaire, régulière. Il braque plus encore les jumelles et remonte, remonte, cercle après cercle, jusqu'à la source.
Nom de Dieu !
Il distingue la forme d'une barque qui glisse à la surface du lac, dont seuls quelques coups de rame trahissent la présence silencieuse. Il zoome encore, optimise la vision, écarquille les yeux pour qu'aucun battement de cils ne vienne balayer la scène.
Par tous les enfers !
Aucun doute, il reconnaît le blouson citrouille fumerole de Tom. Et à côté, la veste de ski violette, le bonnet mauve et l'écharpe blanche de Maddy Libéry. Les crampons d'acier à ses pieds paraissent définitivement plantés dans les planches de l'embarcadère.
Bordel, qu'est-ce que cette folle fabrique avec ce gosse sur le lac ? Et les spinasses et ces gendarmes qui n'arrivent pas ? Que faire ?
Il hésite à tirer un coup de SIC Pro en l'air. Et ensuite ? Et après ? Il continue de surveiller la barque à travers les jumelles. L'embarcation s'éloigne. Bientôt, elle ne sera plus qu'un point coloré, avant qu'il ne la perde de vue. Il n'a pas le choix. Il doit la suivre. Longer le lac. Par le sentier.
Nectair s'arrête. Essoufflé. Jamais de toute sa vie, il n'a marché aussi vite. Même si chaque pas lui coûte une énergie démentielle. Planter ses crampons au plus profond, prendre un solide appui, essayer de relever le pied en y mettant la force qu'il faut pour arracher un clou, recommencer. Il progresse pourtant, plus vite qu'il ne l'aurait imaginé.
Les jumelles cognent contre sa poitrine. Le SIG Pro se balance dans sa poche. Qu'est-ce que Maddy Libéry va faire avec ce gosse? Pourquoi veut-elle ramer jusqu'à l'autre extrémité? Pourquoi ne pas être passé par le sentier? Il prend appui quelques instants contre le tronc d'un pin, rajoutant son poids à celui de la neige qui courbe ses branches basses. Son cœur bat trop fort. Il a présumé de ses forces. Il a voulu franchir trop rapidement le tronçon de sentier qui quitte pendant une centaine de mètres la rive du lac, serpente entre les pins, avant de redescendre vers la berge. Tant pis. Il n'a pas le temps d'attendre que son rythme cardiaque se calme. Il braque les jumelles et cherche la barque ou, à défaut, les ronds dans l'eau. Il ne distingue plus aucune trace. Rien que la surface lisse et déserte. Comme si le lac était recouvert d'une pellicule de glace qui s'était refermée aussitôt après les avoir avalés. Il peste. L'eau du pavin n'est pas gelée. Il s'est forcément rapproché d'eux. Et ils n'ont pas pu faire demi-tour. Où ont-ils pu passer? Ont-ils eu le temps d'accoster? Oui, bien sûr, s'ils ne sont plus sur le lac. Nectaire s'approche encore un peu plus de la rive, sans savoir où l'eau commence, où s'arrête le chemin. Ses crampons griffent une pierre dans un crissement strident. Ne pas aller plus loin, ne pas paniquer, observer, analyser. Il écarquille les yeux alors que les deux cercles des jumelles longent les bords du lac, à la lisière entre le tapis immaculé du sentier et les flaques de neige qui recouvrent les berges. Il distingue chaque détail, si la barque a accosté. Il la voit. Échoué sur ce qui ressemble à une crique de poche, peut-être même trouve-t-on du sable ou des graviers sous l'épaisse couche de poudreuse. La barque est vide. Son premier réflexe est d'imaginer le pire. Ils ont coulé. Ils ont sauté dans l'eau, ils sont partis rejoindre ce village fantôme, sous la surface du lac, et la barque abandonnée a doucement dérivé. Ses yeux noyés continuent de détailler l'embarcation. Il repère à travers le verre grossissant les rames en équilibre sur le bastingage, la corde nouée à l'anneau de fer de la proue. Il la suit en un lent travelling. L'amarre est accrochée à la branche d'arbre la plus proche de la rive. Si ses crampons n'étaient pas solidement plantés, Nectaire en danserait. Non, ils n'ont pas coulé. Ils ont simplement accosté. Ils ont poursuivi à pied. En route, il doit les rattraper. Même un ours aussi pâteau que lui peut marcher plus vite qu'un enfant de 10 ans. Même si ses chaussures pèsent une tonne. Même si ses cuisses durcissent et que ses genoux grincent. Il frappe dans ses mains, puis sur ses jambes pour s'encourager. Tout en reprenant sa marche, Nectaire tente d'ordonner ses pensées. Quelle peut bien être la stratégie de Maddy Libéry? Ce lac est un cul-de-sac enfoncé dans un profond cratère. On ne peut qu'en faire le tour à pied ou le traverser en barque. Pour rejoindre l'embarcadère et la Mito, ils devront forcément passer devant lui ou faire le tour complet. Pourquoi? Que signifie cette délirante randonnée? Nectaire accélère encore le pas. Il en a l'impression, du moins, il n'a jamais eu le sentiment d'être lent. Il ne s'en rend compte que lorsque les autres progressent plus rapidement. Peut-être qu'en réalité, il perd du terrain sur Maddy et Tom. A-t-il la force de marcher plus vite? Il a presque atteint la crique et se tient devant la barque amarrée, épuisé. L'acide lactique brûle ses cuisses. Pourra-t-il aller plus loin, sans s'arrêter, sans reprendre des forces? Il n'a rien emporté à manger ni à boire. La neige inonde son visage. Quelques flocons s'insinuent dans son cou malgré sa capuche boutonnée. Nectaire s'apprête à hurler de rage quand il aperçoit la lueur, à l'entrée du lac, derrière l'embarcadère, derrière la Mito, derrière la Renault 5. Une voiture! Une voiture qui projette une lueur bleue, tourbillonnante, dans le brouillard. Un gyrophare! Non, deux gyrophares! Une seconde voiture de gendarmerie suit. Sa vie n'a réussi. Elle a convaincu les spinasses de sortir, même par ce temps de loup. Tout issue est coupé. Quoique Maddy Libéry ait manigancé, l'étau va se refermer. Il crispe sa main sur son SIG Pro. Beau boulot, Bocolon. Beau boulot. Nectaire parvient enfin à la crique. Il progresse sur le sentier enneigé d'un pas de plus en plus assuré. L'arrivée de la gendarmerie a permis au secrétaire de mairie de puiser dans une réserve insoupçonnée d'énergie. Il possède assez de souffle pour pousser de longs soupirs de soulagement. Ouf ! La barque clapote toujours devant lui, posée sur un lit blanc qui descend en un long drap nuptial jusqu'au lac. Ouf ! La corde qui la retient à la rive est toujours accrochée à l'arbre le plus proche. Ouf ! Il distingue dans la neige devant lui deux tailles de pas. Ceux d'un adulte et ceux d'un enfant. Nectaire respire de mieux en mieux. Son cerveau avait effleuré, sans oser la visualiser, l'hypothèse la plus sordide possible. Que Maddy Libéry ait fait chavirer Tom de la barque avant d'accoster seul et de tenter de fuir. Mais non. Ce sont bien deux passagers qui ont sauté de la barque, laissé leurs empreintes toutes fraîches dans la petite plage blanche et rejoint le sentier pour le longer, sur quelques mètres. Seulement sur quelques mètres ? Nectaire observe, stupéfait, les traces devant lui qui s'arrêtent net. C'est impossible. Il n'y a rien d'autre que le lac sur sa droite, une falaise abrupte sur sa gauche, et le chemin droit devant, immaculé, qu'aucun pied n'a foulé depuis au moins une heure, à en juger par la couche de neige accumulée. C'est absurde. Ils ne se sont tout de même pas envolés. Et pourtant, comment nier la réalité? Ils n'ont pas pu rebrousser chemin, ils les auraient croisés. Ils n'ont pas pu aller plus loin, leurs pas les trahiraient. Il ne reste qu'une issue. Le lac? Pourquoi y avoir plongé? Parce que les gendarmes sont arrivés? Quelle volonté stupéfiante leur faudrait-il pour s'enfoncer dans cette eau gelée? Nectaire ne comprend plus rien. Une nouvelle fois, tout va trop vite pour lui. Tout tangue, tourbillonne, comme ces millions de papillons flocons. Même ses crampons d'acier ne suffisent plus à assurer son équilibre. Pour ne pas basculer, il pose sa main sur le rocher le plus proche, un mur d'orgue basaltique qui tombe à pic dans le lac, ne laissant qu'à peine un mètre au promeneur entre la falaise et la berge. Aïe ! La paume de Nectaire ne s'est pas appuyée sur la paroi lisse de la roche volcanique, mais sur une aspérité étrange, une curieuse excroissance, à la fois dure et granuleuse. Il dégage du bout des doigts la neige accumulée et étouffe un cri de surprise. La pierre est rouge, rouge vif. Et moins d'un mètre plus haut, une autre, jaune soleil. Il en découvre une troisième un peu plus bas, bleu turquoise, au-dessus de son pied droit. Il lui faut quelques secondes avant qu'il réalise. Ce sont des prises. En levant les yeux, il en repère encore une dizaine. En même temps qu'il les compte, stupidement, son cerveau travaille. Bien entendu, il se trouve au pied d'un mur d'escalade. Le lac Pavin est connu pour ses balades en barque, la couleur unique de son eau, sa profondeur, son village englouti et son site de varappe. Un spot pour débutants d'après ce dont il se souvient. Prisé par les écoles locales, dans un écrin sublime, noir de monde l'été. Mais l'hiver, sous un tel enfer blanc, accompagné d'un gosse de 10 ans, est-ce ainsi que Maddy Libéry compte leur échapper? En escaladant? Nectaire instinctivement lève les yeux. La neige cingle son visage, mais il résiste aux éclats qui le mitraillent, essayant de distinguer au-dessus de lui la moindre silhouette, la moindre ombre. Impossible. Il n'a pas assez de recul, et ils ont pris trop d'avance. Comment Maddy Libéry a-t-elle pu s'y prendre pour convaincre Tom de la suivre dans une telle folie? Tom escalade forcément cette paroi de son plein gré. Elle ne pourrait pas le tirer s'il résistait. Que faire? Les poursuivre? poser lui aussi ses mains et ses pieds sur les prises ? Impossible. Il n'est pas équipé. Il a le vertige dès qu'il monte sur un tabouret, même avec la meilleure volonté. Une seule solution. Prévenir les spinasses, vite, pour qu'ils l'écueillent en haut. En haut. Mais où exactement ? Il ne voit rien, à part la paroi. L'idée lui vient alors naturellement. Pour les repérer, il lui faut prendre du recul. Et pour prendre du recul, ses crampons agrippent la glace. Il court cette fois, faisant voler la poudreuse de la plage. Il arrache la mare d'un geste sec. La branche se casse net. Il jette le tout dans la barque, bois et cordes, et avance au plus près pour la pousser. Un pied dans la neige, un autre dans l'eau glacée. Le froid le saisit, le mord jusqu'aux genoux. Il saute pourtant de tout son poids dans la barque, sans s'en soucier. Il saisit les rames et les plonge dans l'eau, jambes de glace, bras en feu, yeux rivés à la falaise face à lui. Plus il s'éloigne, et plus elle se dévoile. Il commence à distinguer le plateau au-dessus, une plateforme dégagée où, contrairement au reste du site, les arbres ont été coupés. Y sont-ils déjà parvenus ? Ses yeux fous, collés de givre, cherchent à distinguer leur corps plaqué à la paroi rocheuse. Elle paraît un peu moins impressionnante vue du lac, moins abrupte, moins verticale. De nombreuses anfractuosités permettent de l'escalader. Mais il ne repère aucune trace des deux fugitifs. Où sont passés ces fantômes ? Il lâche les rames et laisse la barque dériver. Vite ! Prévenir les spinasses. Les lumières bleues électriques flottent toujours au-dessus de l'embarcadère, mais il est trop loin pour apercevoir les gendarmes. Il sort son téléphone, vérifie qu'il a de la connexion, scrute à nouveau la paroi quand il les voit. Ils sont arrivés en haut, en surplomb du lac. Il repère la veste de ski de Maddy, le blouson de Tom. Que faire ? Il doit choisir, vite, entre son téléphone et les jumelles. Entre la sécurité et sa curiosité. Il n'a pas le temps d'hésiter. De son poste d'observation, entre les épais rideaux de neige, il croit voir la main de Maddy Libéry se baisser pour aider Tom à franchir la dernière prise et le hisser sur le plateau. Il croit entendre Maddy Libéry crier. Puis aucun bruit. Il ne croit pas. Il voit le corps de Tom basculer, tomber. Tomber comme un rocher qui se serait détaché de la paroi, puis crever la surface du lac, à 100 mètres de lui. Sa barque tangue à chaque nouveau rond dans l'eau. Nectaire lâche tout, jumelles et téléphone. Il rame à en perdre son dernier souffle, à y laisser ses dernières forces, à s'en déboîter les épaules. Il frappe l'eau à coups de battoir pour la prévenir, pour la punir. Ne prends pas cet enfant. Mais quand il arrive à l'épicentre des rides, quelques instants seulement après que le corps de Tom a coulé, la surface du lac s'est déjà refermée. Le bleu est à nouveau lisse, pur. Une plaque de mercure, sans la moindre fissure. Et sous le couvercle, Tom doit continuer de descendre jusqu'à 30 mètres, 60 mètres, 100 mètres, jusqu'à rejoindre un autre monde, à l'envers de celui des gens encore vivant.